Chose qui vient spécialement dédicacée à tous ceux qui aiment la Méditerranée et à ceux qui adorent s'y plonger comme nous. Oh, que c'est bon, cousin. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de poissons, elle est pleine de poissons. Des petits, des gros, des fins, des longs et même des tourons. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand chose à faire, ils ne se font pas de mourons. Ils ont leurs identités, moulons de style et de façon. Les petits mangent les verres et les gros les dévoreront. Mais la chaîne alimentaire, il faut que nous la respections. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de marins, elle est pleine de marins. Tous les gens au Fort Saint-Jean leur font un signe de la main. Ils s'en vont pour l'Afrique, ils s'en vont pour l'Asie. Ils viennent des Amériques, ils viennent de l'Océanie. Ils emportent de Marseille et de ou d'ailleurs. Des souvenirs à l'appel et le récit dure des heures. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de jolies filles, elle est pleine de jolies filles. Aussitôt qu'arrive l'été, aussitôt que le soleil brille. Bikini, monokini, des nudes de corps des demoiselles. Sous le ciel de Marseille, elles apparaissent encore plus belles. Les garçons tapageurs sont tous de méchants pencheurs. Nos patates, ghetto blaster, lunettes noires de rigueur. Ils font des matchs de volée et puis des concours de plongée. En bombe du plus haut des rochers. Ils se font cajoleurs, ils se font enjôleurs. Et pour apaiser leurs émois, se jettent à l'eau tous les quarts d'heure. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi ça me rend heureux, elle est pleine de pêcheurs, elle est pleine de pêcheurs. Il y a les professionnels et il y a les amateurs, les pros. Pour eux la pêche est un dur labeur, mais pour nous autres les pescadous, la pêche est un vrai bonheur. Si tu veux prendre du sable.
Oui, bonjour à tous. Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe de Radio Galère et bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, lundi 30 avril. Lundi 29 avril, je prends un peu d'avance. Lundi 29 avril, émission un peu spéciale au sujet des transports, et notamment des transports en commun, bien sûr, et au sujet surtout de leur gratuité, avec des invités, notamment Hervé de l'Indecosa CGT 13 et Maurice, qui se présentera. Et en premier lieu, d'ailleurs, je vais leur poser la question qui tue, on va dire. Non, elle est simple. S'il y a un sujet qui revient souvent lorsqu'on parle des transports en commun, c'est bien celui de la gratuité. Dans la région marseillaise, seule au bagne la mise en place, et ce depuis 2009. Alors, cette gratuité est-elle transposable dans une grande ville comme Marseille ? Je vous laisse la parole, messieurs, et nous rentrons dans le débat sur l'importance de cette gratuité et des transports en commun en général.
Oui. Oui, oui.
Eh bien, merci à vous.
Oui. Bonjour à tous les auditeurs. Et je remercie Radio Galère de nous accueillir pour un sujet aussi sensible. Mais pourquoi ça ne serait pas réalisable sur Marseille? Puisque sur Aubagne, moi je suis aubagnais, sur Aubagne ça fait des années, donc ça fait 9 ans que ça existe, 10 ans que ça existe même cette année, la gratuité des transports. Pourquoi ça ne serait pas envisageable sur l'ensemble de la métropole? Je vais passer la parole à mon ami Maurice, qui est beaucoup plus au fait de la chose, puisque son association s'en occupe depuis quelques années, et qui a de très belles propositions, qu'ils avancent de très belles propositions, justement, pour arriver à ça. Présente ton association, Maurice.
Oui, merci Hervé, et bonjour à tous les auditeurs, et merci à Radio Galère aussi, de nous donner effectivement la parole. J'ai la chance, je dirais, d'être président de l'association qui s'appelle Se déplacer en liberté. Une association qui a été créée en 2014 suite à certains changements politiques sur la ville d'Aubagne. Et nous avons été bien évidemment amenés à nous intéresser à tout ce qui est transport en commun et notamment au tramway et la voie de Valdonne sur le territoire. Mais on ne pouvait pas en rester là, et donc on s'est très 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 rapidement intéressé au phénomène de la gratuité et à toutes ses conséquences. Voilà, donc on est... Alors, je vais ici témoigner un petit peu pendant toute cette interview des conséquences que je trouve positives de la gratuité. Alors je suis un témoin, mais qui est devenu, si vous voulez, un fervent partisan de la gratuité.
Alors, Je vais vous donner quelques chiffres quand même, parce qu'il faut qu'on sache de quoi on parle. Les transports en commun sur le territoire du pays d'Aubagne et de l'Étoile sont encore gérés pour quelques années, jusqu'à la fin 2021, par contrat. Alors je vais vous donner un ordre d'idée. Pour l'année 2015, il y a eu 5 694 300 voyageurs transportés, soit 14% d'augmentation sur 2 729 790 km parcourus. Pour l'année 2016, 5 820 000, on va dire, transportés, soit une augmentation de plus 2,2% par rapport à 2015, et ainsi de suite, on peut parler pendant longtemps, jusqu'à 2019, si vous voulez, il y a eu une augmentation complète, puisque le transport est gratuit, complètement gratuit. Les chiffres du tram à Aubagne nous l'indiquent aussi. Il y a eu 1 787 408 voyageurs pour 2015. C'était la première année de la mise en service, soit 37% de fréquentation du réseau. Et en 2016, on est passé à 2 112 000 voyageurs en 2016, soit plus 4% par rapport à 2015, soit 36% de la fréquentation du réseau. Nous constatons ici que le tram est le moteur du développement de la fréquentation, car il représente 37 à 36% des voyageurs, alors que son trajet ne représente que 7% du nombre de kilomètres parcourus sur Aubagne. Imaginons ce que ce serait aujourd'hui l'essor des transports en commun si le projet avait été mené à son terme, c'est-à-dire à traverser le centre-ville jusqu'à la zone industrielle des Palus d'un côté et jusqu'à la Plaine-sur-Ouvonne de l'autre. La gratuité. Qu'est-ce que c'est que la gratuité ? C'est le facteur le plus important de la progression de l'usage des transports en commun. C'est la gratuité, voilà. Avant, en 2008, il y avait 1 984 000 voyageurs par an. En 2016, on en est à 5 819 812 voyageurs par an, soit plus 193%, presque trois fois plus, depuis la mise en service de la gratuité. Ainsi est démontrée la progression constante et donc l'intérêt indéniable de la gratuité. Il faut savoir quand même que la gratuité, ce n'est pas fait pour justement de la démagogie, ça permet aussi également une certaine économie pour les gens qui ont les plus faibles revenus et qui sont, qui se servent énormément du transport en commun. Moi, étant aubagnais, je peux vous en parler, je ne prends, pour ainsi dire, plus du tout la voiture à Aubagne. Je ne me déplace qu'en transport en commun ou à pied.
Voilà. Oui, la gratuité, si vous voulez, elle a été mise en place pour des éléments de toute évidence. Et Hervé vient de parler du gain du pouvoir d'achat. Il est clair qu'en fonction des familles et des constitutions de familles, c'est entre 40 et 60 euros par mois qui sont économisés par les gens qui bénéficient de la gratuité. Mais il faut voir cet aspect-là qui est très important, c'est clair. Mais il faut voir que la gratuité rentre dans un cadre où il faut absolument, absolument que les transports en commun se développent. Par rapport justement à tous les problèmes environnementaux, etc., etc. Et donc la gratuité, c'est un élément essentiel pour faire en sorte que les transports en commun se développent. Hervé vous a donné des chiffres. Pour être plus simple, la fréquence sur... Alors c'est pas Aubagne, il faut la gratuité.
Oui.
La gratuité, c'est pas Aubagne, c'est le territoire du pays d'Aubagne et de l'Étoile. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à Saint-Zacharie avec des transports en commun gratuits, quoi. Hein. Oui.
Voilà. Cadeaux libres, tout ça.
Voilà. Donc, grosso modo, pour être plus simple, peut-être ça parlera un petit peu mieux, on a multiplié par 3 la fréquentation des transports en commun, quoi. On est passé d'un peu moins de 2 millions à pratiquement 6 millions. On sait que au niveau métropolitain, les objectifs qui sont affichés, c'est d'augmenter de 50% l'utilisation des transports en commun, quoi. Nous, on est largement au-delà.
Oui, parce que je vois que la métropole, avec son livre blanc, se fixe comme but une augmentation de 20% de l'usage des transports en commun d'ici 2030.
Absolument, absolument.
On imagine ce que pourrait devenir ce progrès si les règles de la gratuité étaient généralisées à la métropole.
Oui, alors... vous allez me parler de vos projets et de ce que vous soutenez, mais moi, je vais me faire un peu, pas l'avocat du diable, mais dire ce que je sais un peu sur, malheureusement, l'état notamment des transports en commun à Marseille. Par exemple, il faut savoir que les bateaux-bus qui avaient été générés notamment par un élu communiste de la municipalité,
oui.
et qui était à un prix relativement abordable, c'est-à-dire 2,50 € la traversée. Maintenant, par la municipalité de droite, soi-disant parce que c'était pas assez rentable, c'est passé à 5 €. Ah. Donc c'est énorme, c'est de doubler le prix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'accès est limité aux touristes, et ça veut dire que les Marseillais eux-mêmes ne peuvent plus jouir de ce transport en bateau. Il faut signaler qu'il y a des navettes, par exemple à Toulon, qui marchent bien.
Oui,
beaucoup de grandes villes portuaires ont des navettes à des prix extrêmement réduits, voire gratuites, pour traverser la ville par la mer. Et nous, ça pourrait aller de l'Estac
au Vieux-Port.
De l'Estac.
À Vieille-Chapelle, au Vieux-Port,
n'importe où. Voilà, de l'Estac, ça pourrait aller de l'Estac à Calolonga, les transports, pour ainsi dire, en bateau.
Et traverser la rade.
Et il faut savoir que là, actuellement, donc, avec ce prix-là, ça dissuade beaucoup de gens de prendre le bateau, puisque aller-retour, ça fait 10 € par personne. On est 3 à prendre le bateau. T'as qu'à voir, les chiffres commencent à augmenter.
Oui, et puis si tu le prends pour aller travailler, c'est 10 € par jour, 22 jours de travail par mois.
Et finalement, il y en a qui ont renoncé à ce mode de transport pour aller travailler ou se déplacer dans la ville. Deuxièmement, il faut savoir que, autrement, ben, c'est le bus pour aller d'un côté à l'autre. Il faut savoir que la moyenne horaire de circulation des bus à Marseille, tellement c'est organisé de façon, on va dire, un peu chaotique, pas par la faute des salariés de RATP, loin de là, qui se battent tous les jours pour améliorer la condition des usagers et améliorer leurs conditions de travail, ce qui est très très important.
Ah oui. Et c'est pas eux qu'il faut les planer.
Ils se battent tous les jours pour ça, tous les jours. Mais malheureusement, par exemple, là, on en est à une moyenne de transport en commun sur les bus de 17 km/h, qui est une des plus faibles de France. Ah, quand même, faut savoir. Ah, là, moi, par exemple, il pour avoir droit déjà à une gratuité ou à un tarif réduit, il faut avoir 65 ans, il faut remplir un tas de trucs. Résultat des courses, il y en a beaucoup qui n'ont plus les moyens de payer, qui ne payent pas, qui sont en infraction, mais bon, voilà. En plus de ça, faut savoir que quand même, c'est hors de prix, parce que n'importe quel trajet en bus, même avec la carte d'e-ticket, c'est 1,40 € le trajet.
C'est
la carte de 10 tickets, 1,40 € le trajet.
C'est les cartes solo, je crois, c'est ça.
Ouais, les cartes dits transport. Là. Autrement, si tu le prends ton ticket dans le bus, c'est presque 2 €. Hein. Maintenant, c'est 1,90 €, je crois. Donc ça devient complètement insensé. Après, le problème, il est que on a privilégié à Marseille, bien entendu, encore une fois, le tourisme, et on se retrouve avec des lignes de métro surplombé par des lignes de tramway sur le même trajet, et par contre des zones comme les quartiers nord complètement ignorées, avec depuis qu'il y a un projet de métro pour aller jusqu'à l'hôpital nord, il n'est toujours pas fait. Et ensuite, il faut savoir qu'il y aurait la possibilité largement. Et ensuite, ça va bien plus loin, puisque non seulement on dit qu'il faut des transports en commun plus efficients et à un prix abordable, voire gratuit, je suis d'accord pour la gratuité, on expliquera cette gratuité, comment elle fonctionne. Tu m'expliqueras, Maurice.
Ouais,
d'autant plus qu'il y a un problème aussi sur Marseille, maintenant grande métropole, et sa périphérie. Par rapport au transport en train, c'est une catastrophe.
Ah, ben oui.
Déjà, le président de la région, M. Renaud Muselier, voulait privatiser les RER, enfin les TER, pardon.
Il veut privatiser. Pas il voulait, il veut.
Et déjà, il y a des lignes qui ont été supprimées. J'ai appris que la gare de Pertuis avait fermé, il me semble.
Alors qu'on avait fait les pieds des mains pour la réouvrir.
Et attendez, la meilleure, c'est qu'on fait des lignes de bus sur l'autoroute, sauf que les autoroutes sont complètement saturées et que les bus sont déjà... On sait déjà l'échec qu'il y a eu à Paris avec ces bus, qu'ils ont fermé aussitôt, les Ouibus, là, d'ailleurs, de Macron, hein, avec 250 millions d'euros de déficit, il me semble. Tous des systèmes, en fait, pour permettre au grand capital d'encore torpiller de l'argent sur les pauvres travailleurs. Et je dis les pauvres travailleurs dans plusieurs sens. Dans le fait que nous avons eu, nous, le, je, Je vais parler un peu là, du MNLE et de son action par rapport au transport aussi. Le Mouvement National de Lutte pour l'Environnement est bien sûr tout à fait en corrélation, on va dire, avec l'association de Maurice, dans le sens d'une coopération, parce que, évidemment, au niveau de l'enjeu environnemental, c'est absolument énorme. Il faut savoir que ne serait-ce que les poussières des voitures, parce que ce n'est pas que les gaz d'échappement, il y a les poussières de frein, les poussières de pneus et tout. Il faut savoir qu'en France, déjà, par rapport à la pollution, on détermine quand même à peu près 40 000 décès. C'est énorme.
48 000 décès.
Donc, il y a non seulement un enjeu social énorme, mais un enjeu économique aussi, parce qu'au plus les gens ils sont en mauvaise santé à cause de la pollution, au moins ils ont de possibilités de pouvoir assumer leur quotidien de travail, on va dire, hein, pour se nourrir et pour participer à la société. Et d'autant plus que la réunion que nous avions eue avec des responsables SNCF, notamment des responsables de transport, disait que la région marseillaise était une des points les plus rouges, enfin les plus rouges au niveau des agréments par rapport au transport, était une des régions les plus
difficiles,
les plus, comment on appelle, les plus mal loties, parce que les employeurs, tenez-vous bien, les employeurs font régulièrement des retours à ces services, notamment de la SNCF et des transports, en disant oui, quand même, ça serait mieux des transports beaucoup moins chers. Bon, ils vont pas plus loin, mais c'est déjà pas mal, beaucoup moins chers et surtout plus efficaces, parce que ça nous éviterait, nous, d'avoir nos employés en retard régulièrement. Et d'ailleurs, maintenant, ils sont allés jusque-là. Hein, et d'ailleurs, maintenant, quand on a un CV, que la personne, c'est une entrave à l'emploi aussi énorme, parce que quand on a un CV, que la personne, elle remplit les conditions pour être embauché chez nous, pour travailler pour notre entreprise, quand on voit à l'endroit où elle habite, ben cela, on ne la prend pas, parce qu'on sait très bien que cette personne, elle n'arrivera jamais à l'heure, elle sera toujours ennuyée par rapport au transport. Mais je veux dire, quand on entend ça, et qu'on est responsable d'une association ou quoi, pour les transports et pour la liberté la liberté qui est une liberté fondamentale, d'ailleurs, de se déplacer. Quand on entend ça, on comprend l'état lamentable que sont où en sont les transports à Marseille et dans la
métropole,
au niveau de la grande métropole. Ouais. Donc, vous allez nous dire un peu votre démarche.
Tu as abordé des problèmes dans ton intervention qui couvrent pas mal de choses. Moi, j'ai quelques chiffres, là, par exemple. Il faut savoir que l'impact de la pollution atmosphérique a été évalué à 100 milliards d'euros par le Sénat en 2015, au niveau dépenses et coûts sanitaires. Alors c'est effectivement 48 000 décès par an. Et ça touche des pathologies telles que, bien sûr, les maladies cardiovasculaires, respiratoires, etc., etc. Concernant la pollution, parce que bon, c'est un élément essentiel, il faut savoir que on est sous l'impact de l'Europe là aussi. L'Europe a désigné des zones à faible émission, et nous faisons partie Marseille de ces zones-là. Ça veut dire que à terme, on risque d'interdire la circulation véhicule automobile dans Marseille. Ça veut dire que si on ne prend pas en compte dès à présent la nécessité absolue de rendre les transports en commun efficients, comme tu as dit, on va à la catastrophe. Il y a des gens qui ne pourront même plus se déplacer. Et il faut savoir, dans le même temps, que la Commission européenne est capable de nous imposer des astreintes au cas où on n'atteindrait pas les buts affichés. Et je vais vous donner le chiffre des astreintes que va pouvoir nous donner la Commission européenne, 240 000 euros journaliers. Donc là, il y a une masse d'argent à prévoir et à investir absolument dans les transports en commun.
Mais d'investir dans la gratuité des transports, là, j'ai pas dit tout à l'heure, parce que bon, je ne pensais pas que on allait aussi loin. Les bienfaits de la gratuité dans les transports en commun, ça va permettre aussi beaucoup de choses, parce que nous, on s'est aperçu que quand même sur Aubagne, et le pays d'Aubagne et de l'Étoile, La gratuité a permis une pacification des rapports entre les usagers et le personnel. Parce qu'il y avait toujours continuellement des dégradations, des disputes, des bagarres même. Ça a diminué les dégradations, ça a permis un gain de pouvoir d'achat pour les familles, hein, parce que le coût du ticket voyageur, hein, on n'en fait pas cadeau. Hein, et est un apport possible aussi pour la mobilité aux personnes les plus défavorisées.
Ça aussi. Oui. Hein. Ah, ça, c'est un sacré problème sur Marseille aussi.
Hein.
C'est énorme, parce que là, on est complètement hors norme, parce que, par exemple... j'imagine un peu voilà, des handicapés en fauteuil roulant qui prennent le métro et qui veulent ne serait-ce que débarquer à Saint-Charles. Comment ils font ?
Ah ben oui.
Ils prennent, alors, y en a qui ont inventé des fauteuils roulants avec un système en dessous où on peut prendre l'escalator avec, mais il faudrait équiper...
Oui, mais attends, mais tu sais combien ça vaut un fauteuil comme ça ?
Ouais, non, mais c'est hors de... on en est à des situations complètement insensées, on est d'accord. Par rapport à ça... le souci que nous avons, bien sûr, c'est toujours cette politique générale, uniquement basée sur la rentabilité,
le profit,
le profit et l'apport d'argent aux actionnaires. Donc, à un moment donné, pour arriver à réaliser un projet de transport en commun allant vers la gratuité ou gratuit... c'est une volonté politique énorme. Et je me pose la question de la volonté politique, et je pose aussi la question, en même temps, de cette volonté politique, du fait que... Comment faire comprendre aussi que, par exemple, je pense aux travailleurs de la RATM, notamment, comment leur faire comprendre aussi que ça serait dans leur intérêt d'avoir un transport presque gratuit ou gratuit. Mais les contrôleurs, mais c'est pas compliqué. Il y en aurait du travail pour les contrôleurs. Hein. Entre nous, ne serait-ce que pour assurer là, justement, le fait de pouvoir donner accès aux handicapés au transport, le fait d'assurer la sécurité des moyens de transport, et le fait de faire des... Parce que le problème de Marseille, il est aussi qu'à 9h du soir, il n'y a presque plus de bus pour circuler, que les métros, ils ferment vachement tôt, et il faudrait des métros, comme dans toutes les grandes villes, qui fonctionnent, pour ainsi dire, 24 heures sur 24 heures. Il faudrait des bus un peu plus nombreux qui fonctionnent aussi jusqu'à des heures avancées de la nuit, pour au moins pouvoir rentrer du cinéma ou du théâtre, de voir des amis jusqu'à 1h du matin. Or que là, quand c'est 9h20 quoi, maximum, l'autre fois, j'ai pris le bus, c'était 9h07, mais c'est les derniers. Autrement, je rentre à pied à la maison. Parce que
sauf pour les matchs de l'OM, peut-être, non, je sais pas.
Oui, quand il y a les matchs de l'OM, c'est
alors
bizarre.
Il faut voir que c'est pas un problème de... Le problème de l'emploi, on va dire, de ceux qui s'occupent de transport, des travailleurs du transport, que ce soit RATM ou que ce soit SNCF. Le problème des travailleurs du transport, ce n'est pas le problème de la gratuité, c'est le problème de l'efficience, encore une fois, j'emploie ce mot, de l'efficience des transports, et de savoir que, de toute façon, il n'y a pas d'autre avenir que de développer des transports en commun très peu chers, voire gratuits. Mais tu m'expliqueras, la gratuité, on dit c'est la gratuité, certes, mais ça a un coût.
Justement, je veux donner une précision.
Et on va là-dessus, maintenant.
Je veux donner une précision, à savoir que nous, on ne parle pas de gratuité. Le transport en commun n'est pas gratuit. Nous, on parle d'accès libre. C'est-à-dire que l'usager a un accès libre au transport en commun. La gratuité, ça n'existe pas. Les transports ont un coût. Mais voilà, la gratuité pour la gratuité, c'est pas une bonne chose. La gratuité, il faut la construire, il faut la réfléchir. J'avoue qu'on a quelques réticences, notamment au niveau de la RATM, pour faire avancer cette idée de gratuité au niveau des transports. Et par rapport à cette réticence, c'est surtout l'emploi qui vient derrière.
Oui, c'est ce que je disais.
Absolument.
C'est là qu'il faut être en concertation avec le syndicat.
Absolument.
Et établir...
Et bien au-delà, même.
Bien au-delà, bien sûr.
Mais nous, ce qui a été fait sur le territoire d'Aubagne de l'Étoile, c'est que l'offre de... Grâce à la gratuité, l'offre de transport en commun ayant augmenté, tout ce qui était contrôleur, etc., ont pu être... redistribuer, recaser sur d'autres postes de travail, et donc l'emploi
qui sont d'autant plus valorisants d'ailleurs.
D'autant plus valorisants.
Parce que je suppose que c'est sur la sécurité, sur l'aide, sur l'aide aux personnes, l'accompagnement de personnes qui ont du mal à des handicapés.
Absolument.
On les a complètement à Marseille.
L'augmentation du nombre de véhicules qui circulent, donc des chauffeurs supplémentaires, des conducteurs supplémentaires.
Après, il y a un aspect évident. C'est que la fraude disparaît, quoi. La fraude disparaît.
Oui, et la fraude, ça coûte cher. Très cher.
Les machines, les contrôles, etc., etc.
Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Je pense que le prix du ticket à Marseille, malgré qu'il soit très cher, alors je suis pas sûr, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais je pense que le prix du ticket, il arrive juste à couvrir les machines où tu poisonnes.
Alors,
j'exagère peut-être un peu le trait, mais je crois que c'est à peu près ça, quoi. C'est hallucinant.
Sur la métropole, je crois que la billetterie s'élève à 120 millions d'euros.
Oui.
Voilà. Donc, ça représente à peu près, sur la métropole, la billetterie représente 18%. Du coût du fonctionnement.
Tout à fait.
Ça veut dire que globalement, actuellement, si on veut prendre le discours habituel, à 82%, les transports en commun sont gratuits pour les usagers. Quoi. Donc il n'y a plus que ces 18%
à rajouter. Oui, en fait, ça fait partie du bien commun, les transports en commun. Ça porte bien son nom, normalement, ça devrait faire partie du bien commun, sauf que voilà.
Oui, mais le montant de ces 18%, ça fait quand même 120 millions
d'euros.
Ça fait 120 millions d'euros, donc il faudrait trouver les 120 millions d'euros. Il faudrait quand même aussi que l'État mette un peu la main à la poche, parce qu'il suffit il y en a assez qu'il n'y ait que Paris qui compte.
Oui, mais il faut voir que, d'accord, il n'y a que Paris qui compte, mais... Toujours pareil, dans cette vague de libéralisation qui touche le pays entier, toutes les parties du pays, les transports en commun, notamment dans la région parisienne, j'ai de temps en temps des retours par le mouvement national de lutte pour l'environnement, c'est une catastrophe. Entre les RER et les métros, entre le prix... c'est très cher, les transports en commun à Paris, ça devient très cher. Ah oui. Et avec une efficience, toujours pareil, qui est largement peu au niveau de ce que ça devrait être. Donc on voit aussi les difficultés de ce genre. Or qu'une région comme Paris, je crois qu'avec toutes les entreprises qu'il y a, parce que là, on peut parler aussi du budget, mais le budget, ça serait pas un peu les entreprises à payer un peu les transports en commun?
Oui. On a une étude, nous, sur le territoire de Bagne de l'Étoile qui fait que, vu l'augmentation de la fréquence, le coût et le prix de revient du ticket sur le pays de Bagne de l'Étoile est passé avant gratuité de 4 euros à maintenant, avec la gratuité, à 2 euros. C'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Et donc, nous, comment on est arrivé...
Augmentation de la fréquence.
Eh oui, absolument.
Voilà.
Et nous, comment on est arrivé à instaurer la gratuité? On a joué sur le versement de transport des entreprises. Alors il faut savoir que à l'origine, ce versement de transport des entreprises, elle touchait les entreprises de plus de 9 salariés. Et bon, il y a eu monsieur là qui est actuellement qui est devenu un type un peu important chez nous là, monsieur Macron, je crois là, qui avait passé cette nécessité aux entreprises de plus de 11 salariés. C'est déjà, donc il avait déjà grignoté un petit peu notre chose là. C'est-à-dire que grâce à l'augmentation du versement de transport qui est passé automatiquement de 0,6% sur le périmètre de Bagne de l'Étoile à 1,1%, on a assumé la gratuité. Qu'est-ce qui se passe sur la métropole ? Y aurait possibilité, effectivement, actuellement, le taux de versement de transport des entreprises est de 2% sur la métropole.
Oui. Là, il y a une question qui se pose aussi. Le taux de versement de transport, comment ça fonctionne? Est-ce que l'entreprise peut le déduire de ses impôts? Est-ce que ce n'est pas possible?
Alors, c'est basé sur la masse salariale de l'entreprise. Hein, là, vous me posez une colle par rapport aux impôts. Mais ce que je sais, c'est que, par exemple, les entreprises sur le territoire d'Aubagne de l'Étoile ne participent plus à hauteur de 50% de ce qu'ils participaient avant dans les déplacements et dans le coût des déplacements en transport en commun de leurs employés.
Oui.
Donc, c'est gratuit.
Ah oui, d'accord.
50% de zéro, ça fait zéro.
Ah, d'accord. Et oui, il participe plus à...
Absolument.
Ah oui, et du coup... Du coup,
ce qui dépasse d'un côté, il économise de l'autre, quoi.
Oui, c'est ça.
Voilà. Hein. Donc, nous, actuellement, et dans notre démarche, on a rencontré des échos et des gens qui veulent bien nous suivre sur cette idée de gratuité. Il faut savoir que la gratuité, ça explose actuellement, et les démarches et les réflexions autour de la gratuité explosent en France. Dernièrement, Niort, dernièrement, Dunkerque, etc., etc.
Moi, il y a plusieurs villes qui s'y mettent.
Moi, je me suis aperçu qu'il y a des débats sur la ville de Reims, des débats sur la ville de Lille, des débats sur la ville de Valenciennes, etc., etc. quoi. Donc nous, actuellement, on a notamment lancé un appel avec des associations, et notamment avec les élus communistes de la métropole.
Oui.
Qui nous ont aidés dans notre démarche et qui mène l'idée que si on augmentait le versement de transport, qui est, comme je disais tout à l'heure, de 2% sur la métropole, à la même hauteur que Paris, qui est de 2,95%,
oui.
Ça ferait un gain de 155 millions.
Donc ça veut dire que les 18% de paiement, c'est terminé. Ça veut dire que les 120
millions...
C'est fait.
Les 120 millions, c'est fait. Voilà.
De 2% à 2,95.
Ouais.
Oui, on va dire une augmentation d'un point, quoi. Grosso modo, ça fait une
Mais ça couvrirait les 18% qu'on paye le ticket. Voilà. C'est une catastrophe, parce que, comme je te le disais, mais moi, je connais plein de gens qui il faut s'ancrer dans la réalité. J'ai des amis qui me disent « Lucien, on sait bien qu'on prend les embouteillages et tout, mais... franchement, à la vitesse où ils vont les bus, plus ils sont surchargés, plus le fait que de toutes les manières, ça me revient aussi cher que de prendre ma voiture, je prends ma voiture quand même.
Mais voilà. Il y a une certaine souplesse. Mais ce qu'il faut penser, et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que dans pas longtemps, dans les grandes métropoles telles que Marseille, Lyon, Bordeaux, tout ça, là, l'Europe, merci à l'Europe d'ailleurs, va nous interdire la circulation des véhicules. Individuel. Donc il va falloir adapter.
Mais comment on fait alors ?
Mais il va falloir adapter les transports en commun.
Absolument.
Pour le déplacement de ces personnes-là, pour le déplacement de cette population qui va travailler, qui va, qui vient, ou tout bêtement pour le commerce qui descendent, comme on dit chez nous, je descends en ville pour aller faire des courses. Ouais.
Hein, oui, mais comment tu fais quand tu pars en voyage, que tu pars de chez toi et tout,
Je ne sais pas comment ça va se passer.
Il faut investir dans les transports en commun.
Je ne sais pas comment ça va se passer.
Il faut investir dans les transports en commun, absolument.
Mais les déplacements pour le travail à l'intérieur des villes, ça va être terminé, hein, rêvez pas. Hein.
Qu'est-ce qui se passe à Paris ?
Une ville de 22 km de long sur 18 km de profondeur, comme est Marseille, qui fait... il faut savoir, la superficie de Marseille... Tu mets Paris dedans, Lyon et un peu de sa banlieue, tellement que c'est grand. Tu fais
comme tu peux. C'est une crise sociale écologique.
Oui.
Hein, les événements sociaux de la fin de 2018 avec nos amis les Gilets jaunes, qui ont explosé lors de l'augmentation, de la grosse augmentation du prix de l'essence et du gasoil, sont descendus de la rue, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, et moi je les félicite, leur tire mon chapeau.
Et d'ailleurs maintenant, leurs revendications vont bien sûr sur la justice sociale, c'est ce qui dérange.
Voilà. Et puis quand même, il faudrait qu'ils se posent une question aussi également, c'est que ce qu'ils ont dénoncé au début de leur mouvement, l'essence est encore plus chère qu'à cette époque-là. Hein.
Oui, ça a augmenté, de toute façon, on le sait qu'il n'écoute rien, le gouvernement.
Toute cette crise sociale écologique de la que la France subit à l'heure actuelle doivent nous alerter sur les conséquences de certaines mesures pourtant importantes pour le climat.
Oui. Hein ? Excusez-moi, mais par exemple, quand il y a des pics de pollution sur Paris, qu'est-ce qu'on fait ?
Ben voilà,
On interdit à des véhicules de circuler,
oui.
Et on essaye de faire en sorte que les gens prennent les transports en commun, etc. etc. Donc je veux dire, effectivement, vis-à-vis de l'environnement, c'est extra.
Et puis il n'y a pas que dans l'environnement, c'est que dans une métropole comme la nôtre, à l'heure actuelle, ça se fait au détriment des plus fragiles.
Exactement.
Dans une métropole dont les 7 paradoxes énoncent les écarts de richesse importants, les 10% les plus riches ont des revenus 8 fois supérieurs aux 10% les plus pauvres à Marseille. Hein.
Oui,
c'est un écart qui est deux fois plus important qu'à Lyon ou à Bordeaux.
C'est énorme.
Il y a 200 000 ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 780 euros par personne.
Non, et puis le déplacement, la mobilité, c'est quelque chose de... On devrait même inventer un service public de la mobilité.
Un service public national des transports en commun.
Oui, mais enfin,
on pourrait même en arriver là.
Oui. Ça moi, derrière mobilité, j'inclus les transports en commun, mais bon, la mobilité va au-delà des transports en commun. Il y a le vélo, il y a les modes doux, il y a des trucs comme ça.
Non, moi je pensais au transport de masse.
Oui, on est d'accord.
Oui, mais c'est je suis d'accord. Mais à l'heure actuelle, la politique, c'est, vous imaginez un peu, c'est de mettre en. Et je le vois, on le voit même à travers les organismes sociaux dont je suis un peu au courant. Ils sont en train, tenez-vous bien, de mettre en compétition les régions, voire les métropoles entre elles. C'est-à-dire que les plus riches se débrouilleront bien, les plus pauvres resteront à l'abandon.
Mais ça, il faut dire merci à notre... Pas notre président actuel, c'est le président qui était avant.
Il n'y a pas de cohésion nationale.
Voilà, il faut dire merci au président qui était avant.
La loi Pacte,
qui a modifié les régions pour justement préparer le lit de ces grandes métropoles. Il ne faut pas oublier que tout ce qui a été fait à l'heure actuelle, c'est parce que c'est l'Europe qui le veut. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a 36 000 communes. C'est le seul pays en Europe avec autant de communes.
Alors.
Et ils en veulent plus de ça à l'Europe. Parce que ça fait trop de gens qui peuvent démocratiquement s'exprimer.
Oui, on sait bien que le capitalisme, quand il est en crise, il se débarrasse rapidement de la démocratie qui reste, on va dire. Voilà. Ça n'a jamais été vraiment très démocrate, l'impérialisme. Non. Mais là, ça devient...
Les 36 000 énorme. Communes datent quand même de Napoléon, il ne faut pas oublier.
Oui, mais
Napoléon, il avait dit, faites une mairie où il y a une...
On veut aussi supprimer les départements, hein, tu es au courant. Ça vient de là, donc là, ça veut dire...
On veut faire des landes.
Plus d'identité.
On veut faire des landes, comme en Allemagne.
Oui,
voilà.
Mais il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de... Voilà. C'est un monde
ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec la dernière guerre mondiale, après, nous le font maintenant tranquille, avec la complicité de nos hommes politiques.
Après, je crois quand même, pour en revenir peut-être à la gratuité, il faut convaincre. Il faut convaincre. Et donc, on a des gens qui refusent la gratuité pour des tas de raisons. Bon... On respectera pas les transports, il y aura des dégradations, il y aura des tas de trucs comme ça. Hervé tout à l'heure a parlé effectivement des conséquences. On a du civisme maintenant sur le territoire de Bagne de l'Étoile.
Plus aucune dégradation.
On a un climat social à l'intérieur des transports qui est complètement apaisé.
Par rapport à ça, il faut savoir que dans le marasme social, évidemment, malheureusement, il y a des parties de population qui se sont désocialisés au point de commettre des actes répréhensibles.
Là, c'est fini.
Mais dans ce cadre-là, par exemple, je pense aux contrôleurs de la RATM qui sont là
pour
verbaliser. Il faut savoir que pour les pousser à verbaliser plus, celui qui verbalise plus, il a une prime au pourcentage de verbalisation maintenant à la RATM. Donc c'est devenu des trucs comme ça. Oui. Mais ces contrôleurs-là, après, eux, ils sont mal placés. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils verbalisent en général les pauvres gens ? Qui paye pas le métro ou le bus ?
Par rapport à...
Ensuite,
les 200 000 ménages les plus pauvres de Marseille.
Voilà. Ensuite, il y a une petite chose qu'il faudrait bien saisir. C'est que, justement, par rapport à tout ça, franchement, ça serait pas plus utile, puisqu'ils sont assermentés d'avoir... jusqu'à tard le soir, avec des roulements corrects pour leurs conditions de travail et tout, d'avoir ces contrôleurs qui deviennent des chargés d'accueil.
Des
faciliteurs de vie, des chargés d'accueil pour faciliter l'accès et améliorer la condition des usagers dans le transport en commun. Je veux dire, croyez-moi que c'est une mission que ça serait peut-être très valorisant et pour, et pour eux et pour l'ensemble de la population. C'est toujours une mise en commun de moyens intelligentes et ça arriverait sûrement à aboutir à la même situation qu'à Aubagne où il y a moins de déprédation. Ça recrée du lien social d'après ce que je sais.
Tout à fait. Et notamment vis-à-vis d'un phénomène qu'on ne maîtrisait pas au départ, c'est-à-dire que... il y a certaines personnes qui avancent le ticket social ou le financement social d'un transport. C'est-à-dire que vous payez les transports en fonction de votre niveau.
Oui.
Bon. Et de ce côté-là, ça oblige les gens pour avoir accès à la gratuité de prouver qu'ils ont besoin, qu'ils ne peuvent pas et qu'ils sont dans des situations difficiles socialement, etc. etc. Donc ces gens-là sont marqués de la double peine, quoi, d'une part.
Oui.
Ils sont obligés de prouver beaucoup ne feraient pas la démarche. Alors qu'avec une gratuité, tout ça disparaît, et il y a un climat très apaisé. Y a, dans les bus, dans les transports en commun, les gens ne se regardent pas en chien de faïence en disant « toi tu as payé, toi tu n'as pas payé, toi tu as fraudé ».
C'est l'absence de discrimination.
Ouais, tout simplement.
Égalité, fraternité, gratuité.
Ben là c'est vite fait. Hein. La discrimination, elle est à tous les niveaux à Marseille. C'est-à-dire que celui qui est pauvre, il paye le ticket le même prix que celui qui est riche. Pour avoir la gratuité... il faut presque pas pouvoir prendre un transport en commun, être tellement malade ou je sais pas quoi. Enfin, après, c'est vrai, ils ont développé quelques petits transports en commun pour les handicapés, mais alors franchement, je me demande...
Ben nous, sur le territoire d'Aubagne et de l'Étoile, on a perdu une association qui s'occupait du transport justement des personnes à mobilité réduite qui s'appelle Boulégan. Et Boulégan faisait voyager les gens en mobilité réduite gratuitement aussi, quoi. Et cette chose-là, elle est perdue. Et donc, pour en revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, arriver à convaincre. Et actuellement, les gens qui ne sont pas trop partisans de la gratuité annoncent deux choses. C'est-à-dire que sur une ville comme Marseille, ce n'est pas possible. On nous dit, c'est trop grand, c'est pas... Hein. Et, grosso modo, la gratuité empêche l'investissement dans les transports en commun et l'amélioration des transports en commun. On a un exemple européen qui est Tallinn, capitale de l'Estonie, 450 000 habitants, et qui a instauré les transports gratuits. Et il y a eu un phénomène à Tallinn qui a fait que cette possibilité-là a fait en sorte que la ville est devenue attractive. Les gens sont venus habiter Tallinn grâce aux transports gratuits, et donc la masse d'impôts collectés par le fait qu'il y a plus d'habitants, a augmenté de 12 millions d'euros par an. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer à un moment donné flécher cet argent-là, qui serait un apport par les gens qui viennent habiter grâce à la gratuité, pour faire de l'investissement dans les transports en commun et améliorer les transports en commun? Parce qu'il y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'on ne peut pas offrir la gratuité à des gens s'ils n'ont pas le transport en commun. Ce n'est pas possible.
Oui, mais c'est lié.
Donc ça veut dire que absolument, il faut construire la gratuité, il faut réfléchir à la gratuité, et il faut que la gratuité ne soit pas l'opposé de l'investissement.
Oui, mais justement, là, on en revient au symbole typique du métro qui s'arrête à Bougainville et qui devrait aller au moins jusqu'à l'hôpital Nord, n'est-ce pas? Au moins. Oui. Et quand tu descends du métro, il faut que tu prennes le bus qui monte la liste, etc., etc., ouais. Ou je
ça,
sais pas quoi,
comme
et que tu t'en sors plus. Quoi.
Comme le tramway qui devait aller jusqu'à l'Estaque.
Finalement, la plupart des gens, ils prennent la bagnole. Hein,
comme le tramway qui devait aller jusqu'à l'Estaque, puisqu'il y a même les voies. Il y a tout qui est prêt, il y a tout qui est posé. C'était les voies du chemin de fer. C'est les mêmes.
Hein. Oui, voilà. Ben non.
Donc, je voudrais ouvrir une petite parenthèse là, sur Aubagne. Sur Aubagne, le nombre de voyages annuels en transport en commun est passé de 1,9 million à 6 millions entre 2009 et 2017.
Il y a 5 000 voyages jour de personnes qui ont abandonné la voiture. 5 000 voyages jour. Donc c'est pas mal. Donc la gratuité, on a vu, on peut la financer par l'augmentation du versement de transport.
Oui.
Bon, reste à savoir maintenant comment... Alors, on va bien au-delà. Donc cet argent qui, en plus, on peut aussi le basculer dans les investissements. Mais quels sont les moyens, maintenant, qu'on peut imaginer pour faire en sorte que les investissements ne soient pas à la traîne et ne soient pas freinés à cause de la gratuité, et au contraire, aille dans le sens de l'augmentation. Et là, pour en revenir un petit peu aux collègues communistes et les élus métropole, de la métropole, il y a des solutions qui sont mises en place. Bon, il y a l'aide de l'État, bien évidemment. Il y a l'aide du département et de la région. Il y a des dotations qui sont à recalculer. Hein. Mais il y a aussi, par exemple, et moi je trouve que l'idée est bonne, c'est qu'on peut imaginer actuellement, sur Marseille et sur la métropole, il y a des tas de DSP, délégations de services publics,
oui,
qui font des bénéfices, mais ça, on ne va pas critiquer, mais que ces bénéfices-là, au lieu d'être réinvestis dans l'augmentation des transports, sont distribués aux actionnaires.
Oui.
Pourquoi ne pas imaginer, quand on arrive à la fin de ces délégations de services publics, récupérer ça en régie et l'argent bénéfice, les remettre dans l'investissement et l'amélioration des transports en commun.
Oui.
C'est une chose qui me semble. Bon, je pense, par exemple, on peut penser au tunnel du Prado-Carénage, on peut penser à tous les parkings, oui, etc., etc. Donc, à un moment donné, je pense que on en revient un peu toujours au même. Si on a la volonté politique de faire en sorte que la gratuité progresse, on peut faire ça.
Voilà. Je crois qu'on a fait un tour assez complet. Et... je veux dire, édifiant, quelques mots encore.
Oui, je voudrais, parce que, au point de vue ASDEL, la gratuité nous tient à cœur. Moi, je voudrais un petit peu remercier aussi tous les partenaires qui nous ont aidés dans cette démarche et qui nous soutiennent. Hein. Il y a le Vivre les services publics. Il y a l'ULCGT d'Aubagne qui nous aide. Il y a le collectif gratuité. Il y a les sections PCF du Parti communiste de Roquevert et d'Aubagne. Il y a l'USR, l'Union syndicale des retraités. De la CGT. Il y a l'Assemblée des Insoumis d'ici, d'ailleurs, qui est un parti issu de la France insoumise. Il y a l'Indecosa,
oui,
CGT, qui est à l'origine, effectivement, de cette peut-être émission d'aujourd'hui, mais et que j'en remercie plus particulièrement.
L'Indecosa, elle est à la pointe de beaucoup de choses qui préoccupent la population. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui ont des préoccupations liées justement à être acteurs et consommateurs à rejoindre et à joindre l'Indecosa pour des tas de choses, dont le transport est une des causes de l'Indecosa.
Ah, ça va être un de nos chevals de bataille, parce que nos hommes politiques, comme le disait Maurice, comme tu le disais tout à l'heure toi aussi, c'est une réelle volonté politique de pouvoir le mettre en place, parce qu'il y a la possibilité. Il y a une telle possibilité, c'est qu'il y a de nombreux pays qui s'y mettent, tellement qu'ils s'y mettent, c'est que même en Allemagne, ils sont en train de le mettre.
Il y a 107...
La maire de Paris a aussi engagé une démarche de faisabilité de la gratuité.
Ben oui.
D'ici 5 ans, les transports en commun public seront entièrement gratuits au Luxembourg, a annoncé le Premier ministre, le 29 novembre 2018, ouais, le Premier ministre Xavier Bettel. Hein. Et en Allemagne, des expériences sont menées dans 5 villes test, dont Berlin, Rindberg et ainsi de suite. Là. Hein? Donc c'est quand même... c'est pas de l'utopie. Ce n'est pas du tout de l'utopie.
Et nous, on
c'est...
passe le bateau bus de 2,50€ à 5€.
C'est
une anecdote, mais c'est terrible. Quoi.
J'avais pas fini ma liste. On
a affaire à des sacrés politiques dans notre ville.
Ils sont bons.
J'avais pas fini ma liste des gens qui nous ont aidés. Bon, j'avais Ensemble 13 et oui, puis la DERC.
Oui,
c'est compliqué à dire ça.
Oui.
Les communistes. Les 13, voilà. Autrement, ils vont même vouloir, c'est pour ça.
Oui. Non, oui. Pour finir, je voulais dire aussi également qu'il faut que les gens qui nous ont écoutés, s'ils pouvaient faire un retour, quel qu'il soit, auprès de la station.
Radio Galère 88.4, oui.
De Radio Galère, ça nous intéresserait énormément. Et je vais leur dire aussi que d'ici un an, dans un an, il y a une élection très importante qui se prépare. C'est les élections municipales.
Oui, mais là, on en reparlera dans une prochaine émission.
Dans une prochaine émission, parce mais d'ici là, il faut que quand même les gens commencent à se mobiliser, parce que ça, on va le soumettre à nos hommes politiques, et on va voir ce qu'ils vont nous répondre.
Ben oui, oui, ben déjà, ben je crois que, ben je vois que déjà on a fait une action du MNLE sur le port, sur, c'était la semaine dernière, on est allé par rapport aux bateaux-bus, encore une fois réclamer que les bateaux-bus fassent partie d'un tout RETM avec progressivement mettre les bateaux-bus aussi en gratuité, parce que pourquoi pas,
hein. Mais après, après il y a tout qui est attitude.
Par exemple, il y a une ville comme Sydney, pour traverser Sydney en Australie maintenant, ne te casse pas la tête, tu prends pas ta voiture, tu prends le bateau, tu vas d'un côté et de l'autre, terminé. Et c'est compris dans le budget de la ville, tout simplement. Voilà. Voilà. Et résultat des courses, trois fois moins de voitures.
Hein. L'Australie, c'est le nouveau monde, c'est nous qu'on a colonisé.
C'est pas la peine
nous, quand on dit les
Européens. C'est pas la peine d'interdire les voitures. Il y en a automatiquement deux, trois fois moins dans la ville de voitures.
Ah ben oui.
Tu prends il y a un bus toutes les 5 minutes, un bateau toutes les 10 minutes, royal.
Voilà. Ouais, les transports, voilà. Ouais. Mais nos hommes politiques, il va falloir qu'ils nous répondent là-dessus, puisqu'on va aller les voir, tous nos hommes politiques, tout bord qu'ils soient.
Mais
on va leur remettre le dossier, hein, Maurice.
Absolument.
Là, j'espère qu'il y aura d'autres émissions sur les enjeux de transport. Et les enjeux de transport sont directement liés aux enjeux et de logement et de santé.
Mais c'est
Voilà. Donc c'est d'une importance cruciale.
Environnementaux aussi.
Tous ceux qui habitent dans les quartiers nord. Tous ceux qui habitent dans les quartiers nord. Moi, j'y ai habité pendant quelques temps dans les quartiers nord. Rien que pour descendre, travailler en ville...
C'est
abominable.
C'est
abominable. Ces gens, ils sont ghettoisés, que ce soit dans des copropriétés, dans des résidences ou dans des cités où il y a les bailleurs sociaux. Ils sont totalement ghettoisés et ils ont un strict minimum de transport en commun.
Mais c'est... C'est parfois...
Comment ils font pour travailler, ces gens-là? Ils sont obligés de prendre la voiture. Hein.
Oui, malheureusement, c'est comme ça. J'ai des cas énormes.
Et combien ça va leur coûter, ça? Combien ça leur coûte, ça?
Les transports en commun devraient être un point essentiel des campagnes électorales à venir, ouais, c'est sûr.
Ah ben oui, le logement, ne rêvons pas. Le logement, le transport en commun, hein. C'est deux leviers sur lesquels les hommes politiques doivent appuyer pour répondre aux besoins de notre société.
Mais moi, je ne suis pas pessimiste. Il y a une enquête actuellement qui est initiée par le Sénat. Ah ben oui, là, mais...
Oui.
Bah, d'accord, mais bon, ça veut dire quand même que l'idée... Ça veut dire quand même que l'idée fait son chemin. Quoi. Ouais. C'est ça qui est important.
Mais en fait, tu sais, Maurice, chat et chaudé craignent l'eau froide.
On est d'accord.
Avec ses hommes politiques, on s'attend à tout sauf ce qu'il y a
de bien. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, certes, ça, c'est encore une fois, c'est l'effet paradoxal, non pas paradoxal, c'est l'effet vicieux d'une politique de ce gouvernement qui, en apparence, fait soi-disant des choix sociaux, mais qui, en réalité, fait des choix ultralibéraux qui font les droits dans le mur, non seulement...
Quels choix sociaux?
Mais des annonces...
D'augmenter la CSG sur les retraites, hein.
Des annonces qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des anecdotes pas possibles par rapport, par exemple, un truc sur les pensions alimentaires, mais que la CAF fait déjà. Enfin, le dernier discours du président... Je ne dis pas notre, pour moi, c'est pas...
C'est pas le mien.
Moi non plus. Et catastrophique. Ben aucune réponse à rien du tout. Que des effets de manche. À tel point que j'ai des retours de personnes, de personnes qui ne sont pas particulièrement intéressées à la politique, et des choses bougent pour ça, qui disent clairement, mais cet homme-là, il a parlé pour rien dire.
Mais comme d'habitude, c'est un homme politique.
Donc à un moment donné, la politique, il faut que ça soit le peuple qui s'en mêle de la politique.
Il faut que,
comme
il faut reprendre en main, le peuple doit reprendre en main ses objectifs, sa destination. C'est à lui de reprendre en main tout ce qu'on nous a... Tout ce qu'on a gagné en 1789, on l'a perdu.
Au même titre que le droit à la santé, que le droit au logement, c'est inscrit d'ailleurs à l'ONU, tout ça, que le droit à l'éducation, le droit au transport est un droit fondamental.
Tout à fait.
Mais on n'a qu'à reprendre les décisions du CNR. Oui. À l'époque, à la libération, le CNR, il ne faut pas oublier que le CNR, c'était toutes les tendances politiques, quelles qu'elles soient, qui ont résisté, qui se sont élevées contre le nazisme et contre le fascisme français, les pétainistes et compagnie, et qui avaient fait un carnet qui s'appelle le Conseil national de la résistance et qui avait fait le programme des jours heureux. Voilà.
Oui, alors.
Et là, il faudrait s'appuyer, revenir là-dessus. Alors, déjà dans un premier temps,
savoir
parce qu'on a
que
tout
c'est
perdu.
Parfaitement possible, mais bien sûr, ne serait-ce qu'avec les 100 milliards d'euros par an de fraude fiscale,
d'évasion fiscale.
Ah, mais là,
c'est pour ça qu'on nous enlève 120 000 fonctionnaires, parce que comme ça, on ne pourra pas aller les chercher. Parce que pour en revenir justement à cette évasion fiscale, moi, je voudrais ouvrir une petite parenthèse vite, là, sur les 200 millions et les 100 millions donnés par certaines personnes pour Notre-Dame de Paris.
Oui.
Que, ma foi, c'était la moindre des choses qu'ils pouvaient faire, mais ce qu'ils ne nous ont pas dit.
Ils déduisent des impôts.
C'est qu'il y a 66% qui sont déduits
des
impôts.
Oui, ils déduisent des impôts. Et puis, il faut savoir qu'à un moment donné...
Alors, sur 200 millions, 66%, ça fait 132 millions.
On laisse pourrir des écoles pour les enfants. On laisse pourrir les hôpitaux. Notre-Dame, c'est triste, d'accord. Mais on fait comme si de rien n'était. On fait comme si de rien n'était. J'ai écrit quelque chose là-dessus, d'ailleurs. On fait comme si de rien n'était pour un peuple mutilé parce qu'il se bat pour la justice sociale. On fait comme si de rien n'était et on laisse mourir nos anciens parce qu'ils vont ramasser les salades en fin de marché parce qu'ils ont des retraites tellement pourries. On fait comme si de rien n'était pour nos enfants qui ont que des emplois précaires et que s'ils lèvent le petit doigt pour dire « augmente-moi un peu et tout », ils se font mettre à la rue directement ou ils se font montrer du doigt par des employeurs. On fait comme si de rien n'était d'une misère profonde qui s'installe dans ce pays. On fait comme si de rien n'était que la plupart des gens n'ont plus accès à des transports parce qu'ils ne peuvent plus se les payer, parce que c'est une réalité. Au moins 200 000, déjà, c'est sûr qu'ils ne peuvent rien faire. On fait comme si de rien n'était. Et là, d'accord, il faut la réparer, Notre-Dame. Ah oui. Les gros riches, là, de suite...
C'est un joyau mondial.
Ils ont lâché un milliard.
Et c'est même plus, pas national, c'est mondial.
Attendez, et en plus, ils demandent quand même la solidarité aux plus pauvres pour Notre-Dame. Mais par contre, c'est l'idée que les un peu moins pauvres, ils sont solidaires des un peu plus pauvres dans ce pays.
On n'a pas vu le même...
C'est quand même extraordinaire.
Oui, ça permet aux riches d'être un peu plus riches.
On va finir sur une note...
On n'a pas vu le même élan de solidarité pour la rue d'Aubagne.
On va finir sur une note positive.
Non, pas du tout.
Et la note positive, c'est que déjà, la manifestation à Paris de samedi, par rapport à ces politiques qu'on dénonce, et sur le transport, sur le logement, sur la santé, surtout, parce que l'éducation, comme tu disais, ces politiques que l'on dénonce, je crois qu'il y a de plus en plus une conscience qui s'élève, tant à tous les niveaux. Après, celui qui est pour une pensée pure, montrez-moi-le du doigt. Chacun avait nos différences. Si on se met ensemble, je crois que notre bien commun qui est nos biens communs, qui sont tous ce qu'on a cités et ce dont on a parlé là, transport, santé, logement, nos biens communs, je crois que si on continue à se mettre ensemble et à réfléchir ensemble, on pourra arriver à faire quelque chose.
Et mercredi, rendez-vous mercredi. Grand défilé mercredi.
Mercredi, 1er mai, voilà, dans la rue pour toutes ces raisons. Et je crois que c'est une chose qu'il faut dire. De toute façon, l'enjeu est tel. Comme je disais tout à l'heure, je parlais de nos anciens, je parlais de nos enfants. Mais l'enjeu, c'est plus maintenant une question simplement de dignité. C'est une question de vie.
De survie.
De vie. Pour l'instant, on est en survie. Mais ce qu'ils veulent, les gens, c'est vivre, pas survivre. Vivre. Avoir accès aux loisirs. Avoir accès aux hôpitaux sans se prendre la tête.
Manger
avoir accès à leur emploi sans passer des heures dans des transports complètement dépassés.
Manger correctement. Avoir une éducation correcte à l'école.
Avoir des logements dignes de ce nom.
Oh là là.
Voilà.
J'ai invité les gens à aller faire un petit tour du côté du petit séminaire à Marseille. Ils verront.
Donc voilà. Merci d'être venu, merci Maurice.
C'est nous quand même vous remercier.
Merci à Indecosa CGT, merci à Radio Galère.
Allez.
C'est le merci de l'ASDEL.
Daniel. Bonne journée à tous. Merci encore. Au revoir.
Bonne soirée à tout le monde, oui. Allez, j'ai un seul générique. Au revoir à tous.
Ah ben ouais. Allez, ciao.
Oh, la chose qui vient est spécialement dédicacée à tous ceux qui aiment la Méditerranée et à ceux qui adorent s'y plonger comme nous. Oh, que c'est bon, cousin. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi, ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi, ça me rend heureux, elle est pleine de poissons, elle est pleine de poissons. Des petits, des gros, des fins, des longs et même des tourons. Certains vivent près du bord et d'autres vivent dans le fond. Certains sont sédentaires et d'autres changent d'horizon. Ils n'ont pas grand-chose à faire, ils ne se font pas de mourons. Ils ont leurs identités, moulons de style et de façon. Les petits mangent les verts et les gros les dévoreront. Mais la chaîne alimentaire, il faut que nous la respections. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi, ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi, ça me rend heureux, elle est pleine de marins, elle est pleine de marins. Tous les gens au Fort Saint-Jean leur font un signe de la main. Ils s'en vont pour l'Afrique, ils s'en vont pour l'Asie. Ils viennent des Amériques, ils viennent de l'Océanie. Ils emportent un bout de marin.